Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que tu veux faire comme film?
Du coup, ouais, juste, vas-y, notre truc, c'était bien sur l'ouverture d'esprit, sans s'accepter.
En fait,
donc, on va faire.
Donc,
plutôt de quel côté?
Quelque chose
bah,
avec
je pense qu'il faut aller interroger
musique,
les gens sur place.
Ok, bien. Tout le monde, on se rassemble. Ludo, tu nous fais le test des micros, s'il te plaît?
Ouais, bah pour tester les mots, utiliser un bon mot, genre patate, ça sonne bien, non?
Patate.
Ça sonne bien.
Ok, ouais, bon. Bon allez, on y va. Ludo, vas-y.
Mais sinon, moi j'aime bien le piano.
Bonjour et bonsoir à tous. Vous êtes sur Ça percute. Aujourd'hui, une émission consacrée à des thèmes sérieux, traités avec humour. Sur ce, je vais vous laisser découvrir le premier thème de cette émission, qui est l'un des sujets les plus principaux, le débat. Mais le débat sur quoi, me diriez-vous? Eh bien, le débat sur la créativité. Je vous rassure, nous avons tout fait pour rester le plus professionnel possible. Alors nous accueillons dès maintenant Emma et Ludo
pour débattre.
Bonjour à toi, Esteban.
Hello.
Bonjour à vous deux. Bon, alors, nous allons donc parler de sa créativité, mais d'abord, qu'est-ce que la créativité? Bon, alors, j'ai une petite page internet juste à côté de moi, et nous avons apparemment que c'est une capacité à pouvoir qu'un individu a un pouvoir de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Faire preuve de créativité, c'est manquer de créativité, c'est la créativité et l'imagination exigent d'apprendre à se poser des problèmes. Alors, pensez-vous que la créativité a un rapport avec l'école?
Alors, bien sûr, moi, je pense que la créativité a tout à voir avec l'école. On est dans une période où on se construit psychologiquement, mentalement, et la créativité est une partie essentielle de notre vie. Et l'école est un endroit où on passe les trois quarts de notre temps, quand même. Donc, je pense qu'il est totalement important que l'école soit un lieu de créativité.
Et vous, Ludo?
D'accord. Donc, moi, déjà, avant de commencer, je vais faire, comme diraient les youtubeuses beauté, un petit disclaimer. Je pense que, à mon avis, le but de l'école est de former des êtres qui soient uniformes. C'est-à-dire, le principe d'un État, c'est derrière pouvoir former des personnes, ce qu'on pourrait appeler en masse. Je dis pas ça de manière négative ou positive. L'État, chaque année, a des millions de gosses à faire apprendre des choses. Donc, je pense que déjà, partant de ce principe-là, la créativité, ce genre de choses, on est obligé de passer par des process. Et la plupart du temps, les process, ben, malheureusement, ça bride un petit peu cette créativité.
Donc, du coup, vous pensez que l'école peut limiter cette créativité?
Exact. Je pense qu'à mon avis, par exemple, quand on passe, si vous allez faire, par exemple, des récits de français, derrière, vous allez avoir, comment je pourrais expliquer ça? Vous allez avoir un système qui va permettre, on entre au début, on met les différents ingrédients, et à la fin, on sort, par exemple, avec un conte ou ce genre de choses. Donc, la créativité là-dedans, elle est limitée par des règles. Mais après, la créativité peut être aussi limitée. On va vous dire, par exemple, à l'école, il y a pas mal de matières qu'on ne peut pas apprendre. L'école ici n'est pas à la carte. C'est-à-dire que derrière, c'est pas au niveau, on demande pas aux gosses à la base, est-ce que t'as envie d'apprendre ci, est-ce que t'as envie d'apprendre ça? C'est même pas une question, en fait. Il y a un programme, qui pleuve, qui vente ou qui neige, le programme y passe. Donc derrière, en fait, le principe de la créativité, personne ne se le pose. Parce que oui, selon moi, la créativité
Ludo,
est tuée.
Je pense qu'il faut déjà ne pas dire l'école, mais plutôt le système éducatif. Parce que l'école, en général, c'est pas que notre système éducatif qu'on connaît.
Ouais, c'est ça. Parce que l'école, il y a plusieurs choses. Par exemple, Montessori, comme on y viendra tout à l'heure, on peut pas regrouper dans la même chose. Effectivement, t'as raison.
Mais, attendez. Vous parlez que, enfin, tous les deux, vous parlez donc de la créativité à l'école. C'est déjà très bien. Mais, en fond, comment ça fonctionne, la créativité à l'école? Qu'est-ce qui fait que, justement, ça peut se développer ou ça peut se...
Moi, je pense que pour que la créativité se développe à l'école, il faut laisser une marge à l'élève.
Une marge de liberté.
Une marge de liberté, merci. À l'élève pour que lui-même se développe et apprenne à trouver des solutions à ses problèmes. Parce que c'est de la créativité de trouver une solution. Mais pas une solution qu'on lui a dictée et qu'on lui a dit, cette solution, c'est pour ce type de problème. Non, par exemple, en mathématiques. Pour prendre mon exemple, j'ai jamais été bonne en mathématiques, mais je pense qu'on m'a pas enseigné la bonne manière de faire des mathématiques. Je suis sûre que si on m'avait enseigné que les mathématiques, c'était comme de l'électricité, qu'il y avait un chemin le plus rapide possible et qu'il fallait trouver la solution pour aller le plus vite possible, je suis sûre que j'aurais bien mieux compris.
Ludo, un commentaire?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Emma. Je pense qu'à mon avis, c'est surtout un problème structurel, c'est-à-dire le but de l'école, à la sortie de l'école, qu'est-ce qu'on veut ? Donc après, on passe dans le supérieur, ce genre de choses, enfin du système éducatif plutôt, on veut des êtres qui soient uniques et qui soient prêts pour le marché du travail. Des êtres qui soient prêts pour le marché du travail, c'est-à-dire qui ont une grande capacité d'adaptation et qui ont déjà tous les mêmes savoirs, tous au départ. Donc je pense qu'à mon avis, déjà structurellement, on peut pas développer la créativité au sein d'une école.
Non, et puis ça va pas, chaque personne est unique. On veut que tout le monde soit pareil, c'est totalement impossible. Chaque personne est unique et c'est ce qui fait la richesse d'une société. Or là, on est en train d'enlever cette richesse pour avoir des robots.
Je vais vous prendre peut-être une anaphore qui est un peu mal placée. Quand vous achetez une paire de chaussures, c'est pas à votre pied de s'adapter à la chaussure, c'est à la chaussure de s'adapter à votre pied. Ça vous paraît tout à fait normal. Vous allez dans un magasin chercher des pompes, c'est comme ça. Par contre, à l'école, c'est à vous, c'est à votre cerveau. Un être extrêmement complexe qui doit s'adapter à l'école. Et c'est pas l'école qui doit s'adapter à votre cerveau. Et ça, je pense que déjà, ça pose un gros problème au niveau de la créativité.
Non, et puis il n'y a pas que le cerveau. Il y a le sentiment, il y a la personnalité, il y a les capacités de chacun. On n'avance pas tous au même rythme.
C'est un peu comme des fois ce que certains profs ironiseraient avec l'école, entre guillemets, qui puisse s'appeler à la carte, je pense. Ça.
Alors, bon, entre autres, vous dites que l'école ne peut pas s'adapter à chaque individu et donc ils essayent de créer un modèle spécifique pour chaque enfant, c'est bien ça?
Oui.
Alors, est-ce que vous auriez, je sais pas, des solutions pour remédier à ce problème? Parce que techniquement, l'école ne peut pas former chaque élève qu'elle reçoit.
Il n'y a pas de solution universelle pour l'instant. Je suis absolument persuadée qu'on pourrait en créer une. Mais ça nécessiterait qu'on s'investisse humainement parlant. Ça nécessiterait des gens passionnés, des gens qui veulent faire quelque chose. Alors il y a des solutions alternatives, comme Montessori, dont parlait Ludo tout à l'heure, mais c'est pas encore parfait. C'est déjà bien mieux, mais c'est pas parfait.
Je pense qu'à mon avis, on peut regarder par exemple dans d'autres pays comme la Finlande, si je ne me trompe pas, on a déjà mis en place ce genre d'école. Le problème, c'est que c'est pour un effectif qui est tout petit. J'ai pas le nombre exact d'élèves qui est en Finlande, mais le problème, c'est que structurellement, on a affaire à une éducation de masse. Ce qui fait que derrière, du moment où on est dans la masse, on est obligé d'uniformiser un petit peu les choses. Et je pense qu'à mon avis, si on voudrait justement, comme dirait Esteban, avoir une véritable solution, c'est pas au niveau de l'État. Au niveau de l'État, on a un système qui est à mon avis trop grand. C'est un petit peu comme les grandes entreprises. Elles sont là pour conserver, pas pour innover. Et je pense qu'à mon avis, c'est justement au niveau de ça, et que la seule possibilité, à mon avis, ça serait des offres privées qui soient derrière. Après, que ça soit bon ou mauvais, moi, je vous donne mon ressenti personnel. On prend des écoles, par exemple, que certains jugeront un petit peu élitistes, ce que je peux être d'accord en partie et comprendre, comme l'école 42, qui a été fondée par Xavier Niel, qui permet aux élèves, en gros, d'apprendre à leur rythme avec un système d'épreuves et qui, derrière, leur laisse toute la créativité possible. Mais je pense qu'à mon avis, on pourrait pas généraliser ça à l'échelle d'un État. On est obligé de mettre ça dans de petites structures en place directement dans le privé. C'est pas, on peut pas, moi, je pense qu'à mon avis, à l'heure actuelle, l'éducation, elle fait ce qu'elle peut mieux faire. Mais il y a quelques personnes, 4-5% de la population au niveau des élèves qui vont en cours, c'est juste pas fait pour eux. Et je pense qu'à mon avis, ça, structurellement, on pourra pas faire grand-chose contre ça.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors pour en venir à la Finlande, il y a aussi une question de budget derrière. C'est un pays riche. Et au vu du nombre d'habitants, ils ont largement les moyens.
Ouais, c'est clair. C'est surtout la proportionnalité du nombre d'habitants par rapport au budget qui est consacré. Parce qu'en France, il y a quand même pas mal de budget au niveau éducation, mais c'est, je pense qu'à mon avis, on essaie de se trouver des idéaux comme la Finlande ou ce genre de choses. Mais quand on regarde à côté de systèmes un petit peu élitistes comme aux États-Unis, ça juge au niveau des notes, ça juge au niveau du salaire. Le salaire de vos parents a même pas une corrélation, mais une influence directe sur votre niveau d'études qu'il va y avoir derrière. Même si en France, c'est à moitié avoué, mais c'est pas tout à fait le cas. Si par exemple, vous pouvez faire une fac, vous pouvez faire une fac de médecine, ne pas en avoir pour une fortune, surtout avec les aides qui sont mises en place. Et je pense qu'à mon avis, rien que grâce à ça, on a quand même un système qui est correct et assez juste.
Donc, en gros, tous les deux pensez que ça pourrait s'améliorer, mais qu'il y a une question de budget derrière. On est bien d'accord?
C'est une infime part. Il y a aussi une question de motivation. Les élèves ne sont pas motivés par ce qu'ils font. Les profs non plus. Combien de profs j'ai vu qui n'étaient absolument pas du tout passionnés par la matière qu'ils enseignaient?
Le problème, en fait, je pense qu'à mon avis, c'est que les profs, quand ils sont recrutés, enfin, je suis pas un spécialiste là-dessus. Les profs, quand ils sont recrutés, par exemple, vous prenez un prof d'anglais, il va être jugé sur sa capacité en anglais, c'est-à-dire, il sait telle chose en anglais. On juge pas un prof, quand on le recrute, à sa capacité à enseigner. C'est-à-dire,
si.
Je vais prendre quelque chose.
Ah si, je suis pas d'accord.
Actuellement, non, justement. Enfin, pour moi, c'est ça le principal problème. Il y a des profs qui ne savent pas véritablement enseigner. Enfin, pas qui savent pas enseigner, mais qui n'ont pas véritablement derrière les bonnes méthodes d'enseignement.
Ce n'est pas leur vocation. Il y a une nuance.
Ouais, c'est ça.
Ce qu'il faut, c'est des profs avec une vocation et des élèves qui se motivent. Parce que, je suis désolée, c'est aussi grandement notre faute. Oui, on n'a pas de profs qui nous motivent. Oui, on n'a pas envie. Le système fait qu'on préfère largement être sur un jeu vidéo. Mais c'est pas normal.
Est-ce qu'on pourrait pas justement détourner ça? Par exemple, au lieu d'apprendre devant une chaise à rester en mode cours magistral devant un prof, passer par les jeux, passer par ces méthodes alternatives. On regarde par exemple, on va au lycée, qu'on en entende parler à la télévision directement comme ça, l'ennemi c'est le téléphone portable. Je veux dire, il y a un moment, ça sert à rien d'arrêter de se plaindre. Le téléphone portable fait ci, fait ça. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, par contre, il va falloir s'adapter. Il y a plein de gens, par exemple, qu'on pourrait appeler un petit peu geek, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, qui passent des heures et des heures sur des jeux, ce qu'on appelle massivement multijoueurs, comme World of Warcraft. World of Warcraft, je pense, c'est un jeu de stratégie. Déjà, rien que ça, il y a un potentiel derrière dans ce jeu-là qui est énorme. Et le problème, c'est que l'éducation ne sait pas faire face à ça. C'est-à-dire que là, on est arrivé, sur les dernières années, on entend pas mal de profs nous en parler. Le truc qui est génial, c'est qu'on a Internet. Moi, je me demande pourquoi prendre des dizaines de cartes par cœur avec des capitales tout le bordel, alors qu'avec ce magnifique téléphone que j'ai devant moi sur Google Maps, ça se fait en moins de 5 secondes. Il y a un moment, il faudrait m'expliquer les priorités de l'école. Je pense qu'à mon avis, on est resté au 19e siècle. C'est pas tellement le problème des profs.
Non, mais là, je vous arrête juste deux secondes. Parce que, juste, vous dites que votre téléphone, maintenant, ça vous remplace. Il faut faire attention justement à ce que ce téléphone ne devienne pas vous.
Mais je pense qu'il y a aussi une question d'orgueil personnel. La culture, c'est important. Les connaissances, c'est important. Je ne me réfère pas tout le temps à mon téléphone. Je préfère largement pouvoir, dans une discussion, sans prendre mon téléphone, dire telle ou telle chose. J'aime pouvoir citer un auteur sans me dire « Mince, c'est vrai, il a fait quoi ? Bon, bah Google. »
Parce que tu as besoin de ce genre de choses. C'est quelque chose qui te plaît, mais apprendre pour la plupart des gens une carte bêtement, ce genre de choses, je pense que c'est débile. Mais par exemple, tu veux avoir quelqu'un qui a conscience, qui va avoir besoin d'une certaine culture, comme toi par exemple, je pense que ça peut être utile. Ouais, effectivement, t'as raison.
Ouais, mais
téléphone,
c'est parce que
tu
je suis motivé.
Pas.
C'est parce
ouais,
que
parce
je suis
que t'as la motivation,
il
mais pour la plupart des gens, il faut essayer de penser à un système quand même global. C'est ce que je te dis au niveau de l'école.
Non, mais le problème, c'est pas le système global, c'est qu'il faut réussir à motiver les gens.
Ouais, c'est ça. Faut réussir à trouver cette motivation derrière et cette envie d'apprendre pour les élèves.
C'est ça.
Ou tout simplement trouver d'autres méthodes d'enseignement. Comme par exemple, Ludo disait que les jeunes se dissipaient beaucoup sur les jeux. Eh bien d'accord.
Ouais, exact.
Alors que finalement, quand on reste assis sur une chaise, qu'on regarde un prof pendant deux heures consécutives, à un moment, notre patience, bon, elle tombe un peu à zéro, on n'écoute plus rien. Eh bien d'accord. Mais finalement, quand des profs font des jeux pour apprendre, bizarrement, c'est ce qui va rester le plus dans l'esprit. C'est ce qui va rester... La manière d'apprendre la plus adaptée, c'est le jeu.
Alors, je suis d'accord dans l'éthique, mais pas trop, en fait. Moi, je suis pas du tout jeu, par exemple. Je sais que, par contre, si on m'intéresse, je vais retenir une heure de cours, parole par parole.
On est sur un système assez global, en fait. C'est-à-dire que... Le truc qu'il faut essayer de comprendre, c'est justement la chose pour laquelle je parlais à côté du principe qu'on pourrait faire des écoles privées. Mais le problème, c'est qu'en fait, le système qui nous va pour toi ou pour moi ne sera pas le même forcément pour tout le monde. Moi, par exemple, ça tiendrait qu'à moi, j'irai pas en cours, je passerai mes journées. Il y a des choses magnifiques à apprendre sur Internet, déjà rien que sur YouTube. C'est assez génial, il y a des blogs, il y a pas mal de choses sur Internet. Mais je pense qu'à mon avis, c'est une manière globale d'apprendre. C'est chacun, il faudrait pouvoir faire une offre sur mesure pour chacun.
Mais c'est exactement ce que je dis. Mais tu vois, si toi, tu retiens tout ce que tu sors d'internet, c'est parce que t'es intéressé.
Ouais, c'est ça, c'est parce que t'as un certain intérêt. Je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Idriss Aberkan, dont vous pourrez retrouver les références sans aucun problème sur Internet, qui cite dans une de ses interventions, je crois, à la Sorbonne à Paris lors d'un TED, si certains connaissent, « La connaissance est égale au temps multiplié par l'attention. » Ce qui signifie que quand l'un des deux vaut zéro, le tout vaut zéro. Donc si vous êtes assis, prenons l'exemple, en salle de physique, pendant deux heures, que vous êtes en mode musique d'ascenseur avec votre voisin, faites-moi plaisir, faites juste un truc. Levez la main, demandez à la prof si vous pouvez partir. Allez dehors, allez manger un truc, du chocolat, ce que vous voulez, mais partez. Le problème, c'est qu'on est dans un système où, en fait, on a toujours cette gestion du temps. Parce qu'on a fait, par exemple, 3 heures d'anglais par semaine, on va avoir ce niveau, au bout de tant d'années, qu'on estime à 3 heures d'anglais par semaine. Et pour moi, c'est ça le gros problème, en fait.
Mais je suis totalement d'accord. Hein.
Bon, alors, on va quand même un peu écourter ce débat. On va passer donc par une catégorie assez simple, une question qui est assez globale, qui va résumer un peu ce débat. Faut-il se mettre en guerre contre le système éducatif?
Ah non.
C'est pas la solution.
De loin pas. Clairement, je pense qu'on n'a pas le choix pour l'instant. Donc continuons comme ça. Apprenons de notre côté, si on veut. J'apprends énormément de mon côté. Essayez, faut essayer de supporter. Et si vraiment vous pouvez pas supporter, ben allez-vous et débrouillez-vous par vous-même. Mais bon, après, si vous voulez, si vous êtes vraiment contre ce système négatif, allez changer quelque chose. C'est nous l'avenir.
Ouais, c'est clair, mais je pense qu'à mon avis, structurellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'État, je pense qu'à mon avis, on peut pas changer grand-chose. On peut changer certaines choses sur la forme, mais à mon avis, le fond même de l'éducation va être extrêmement difficile à changer. Ça fait des siècles et des siècles que l'on fonctionne comme ça, et je pense qu'à mon avis, on est encore pas prêt de changer sur certaines choses.
Bon, merci bien pour ce débat, et maintenant, décidez-vous de votre point de vue sur la question.
Après ceci, j'aimerais vous poser une question. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quel point l'esprit d'un adolescent pouvait être tordu? Eh bien, écoutez la suite. Vous allez être surpris.
Eh oui, comme dit précédemment, l'esprit d'un être humain peut être étrange. Le principe du jeu est simple. Nos lycéens ont un contexte, et à partir de celui-ci, ils doivent créer une histoire. Et à certains moments, l'histoire s'arrêtera, et d'autres lycéens devront tenter de continuer l'histoire en cours. Voyons ce que cela donne.
Je viens d'une famille très spéciale où chaque membre s'habille en noir et va au cimetière au moins tous les dimanches soirs.
L'autre jour, j'ai vu un chien qui était mort sur le trottoir. On l'a récupéré et on l'a bouffé.
Hélas, le chien n'était plus très frais et je n'ai jamais apprécié la viande faisandée.
Tout d'un coup, un inconnu surgit d'un buisson.
Finally, I woke up with a weird taste in my mouth. And strangely, a visit to a psychologist.
Finalement, je me suis réveillé avec un goût bizarre dans la bouche et, bizarrement, une visite chez un psychologue.
Impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, que diriez-vous d'un petit brin de science? Accueillons tout de suite Romain et Corentin pour leur rubrique Igor Eglishka Time.
Bonjour à tous.
Salut à tous. Moi, c'est Grishka et...
Moi, Igor, le frangin. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un domaine qui nous concerne tous, l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Alors, on a tous des idées vagues de ce que c'est précisément, mais on va essayer, durant 5-10 minutes, de vous expliquer généralement ce que c'est.
Bon, on va d'abord partir des définitions. Enfin, c'est un bon point de départ. Donc. On trouve des définitions assez vagues, finalement. Par exemple, ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Ça vous dit pas grand-chose? Eh ben, nous non plus. C'est pour ça qu'on va essayer de
dégrossir et de vulgariser ces paroles que nous-mêmes, on ne comprend pas.
Voilà, merci.
Alors, on a tous des préjugés sur l'intelligence, comme être intelligent signifie avoir un QI élevé. En réalité, le QI, il mesure qu'une infime partie de notre intelligence et tout le monde se base là-dessus. Alors qu'une personne qui est vraiment intelligente va avoir vraiment une capacité d'adaptation en fonction de son milieu. Et le QI ne détermine en rien l'intelligence, il détermine qu'une toute petite partie.
Parce qu'il faut savoir que, en fait, le QI, donc c'est un test d'intelligence, soi-disant, qui a été inventé en 1904 pour différencier... dans les universités, les élèves feignants, des élèves qui avaient des déficiences intellectuelles, comme disaient les professeurs. Et en fait, il s'agit de questions traitant de logique et de mathématiques en fonction du niveau de l'élève.
Alors, le QI se base principalement sur l'intelligence logico-mathématique, mais il faut savoir que dans notre cerveau, on a beaucoup d'intelligence. On a l'intelligence qui nous permet de nous exprimer.
C'est l'intelligence linguistique.
Celle qui permet de créer et de se projeter. Donc, tout ce qui est l'intelligence spatiale et musicale. Et il y a une autre intelligence, l'intelligence qui nous permet de nous ouvrir et d'échanger avec les autres.
Donc celle-là, c'est l'intelligence...
Inter et intrapersonnelle.
Inter et intrapersonnelle. Faut savoir que ces deux intelligences-là sont finalement très présentes et pourtant on reste tout le temps sur le QI. Mais par exemple, on distingue chez beaucoup d'animaux des comportements sociaux assez caractéristiques. Bah, par exemple, on voit chez les éléphants qu'ils ont une certaine compassion pour leurs camarades décédés. Et c'est la même chose que chez les êtres humains. Et c'est pour ça que faut savoir que l'intelligence, c'est pas une question de QI.
En vérité, l'intelligence, à proprement dit, elle se développe au cours de l'âge avec nos différentes expériences et nos différents environnements. Notre cerveau, il va, à partir d'un certain âge, va se remodeler. À partir de 7 ans, notre cerveau va avoir une capacité d'inhibition de ce qu'il a appris avant cet âge-là pour pouvoir à son tour se forger un avis lui-même et se créer sa propre capacité à réfléchir. C'est la plasticité du cerveau. Les capacités d'apprentissage, donc tout ce qui lui impose, tout ce qui lui est imposé de base, donc les limites physiques, toutes ces capacités qui pourront changer, mais avec le temps. Et à partir de 7 ans, notre cerveau va réussir à avoir un raisonnement beaucoup plus poussé qui va permettre de forger notre propre avis intellectuel.
Du coup, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit aussi des limites de l'intelligence, puisqu'on est confronté à un problème de taille et donc de limite, justement. Étant donné que la plasticité cérébrale permet le développement de certaines zones du cerveau, mais au détriment d'autres. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent être très très douées au niveau de la logique et des mathématiques et peuvent s'exprimer très très mal. Et c'est pour ça que c'est ce déséquilibre qui conduit certains génies, entre guillemets, à ne finalement pas déboucher.
Qui appartient à toutes les personnes qui sont dites surdouées. La plupart des personnes qui sont détectées comme surdouées, donc supposées intelligentes, vont être mises à part, et on le voit, elles vont être mises à part et elles vont être élevées dans des écoles spéciales qui vont justement développer leurs capacités intellectuelles, et comme a dit Grishka, vont par contre inhiber et réprimer les côtés plus sociaux de leur intelligence.
Merci donc pour ces informations qui nous ont été précieuses, messieurs.
Mais de rien.
C'est très bien, merci d'avoir participé à cette émission. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais attendez, pour vous rassurer, restez à l'écoute pour une présentation d'un film choisi par notre très cher ami Corentin. Corentin, quel est donc ce film ?
Donc, le film que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui s'appelle Short Circuit. En français, court-circuit, pour ceux qui auraient des difficultés en anglais.
Bon, on va rester dans la version anglaise, c'est ce que c'est quand même.
Short Circuit, c'est mieux. Donc, c'est un film réalisé par John Badham en 1986, où on nous raconte l'histoire d'un robot qui est le produit d'une invention militaire. Et ce robot, au cours de circonstances indépendantes de lui-même, finit par bugger. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va développer, justement, des signes d'intelligence manifeste. Et en fait, ce qui est drôle dans ce film, ben, c'est que il va cohabiter notamment avec une femme qui va l'aider et le protéger pendant qu'il essaye d'échapper à ses créateurs. Et en fait, c'est comme une revisite du mythe de Frankenstein. Et ce qui est marrant, c'est que ça, il y a beaucoup beaucoup d'humour, et pourtant parmi l'humour, on comptera les capacités d'apprentissage du robot qui font que il arrive à danser et aussi à citer des répliques de films comme on le ferait tous, hein, des répliques de western, notamment quand il est face à l'ex-petit ami de la fille qui l'a recueilli. Je parlais du robot.
D'accord, oui. Non.
Et donc, c'est pour ça, c'est un robot qui est vachement touchant. En plus, son apparence, au début du film, il est montré avec les yeux rouges et à contre-jour pour nous faire penser à un robot un peu démoniaque et machine à tuer. Puis en fait, après, quand on le voit dans les autres scènes, son apparence même est assez, il a l'air d'un robot gentil. Et en fait, on voit par exemple que avec ses chenilles et puis son cou rétractable et ses deux gros yeux, il y a une correspondance avec le Wally de 2009. Et d'ailleurs, il est de la même couleur rouille. En plus de ça, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est... j'ai oublié. Ça va me revenir. Ouais. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'on a vraiment des personnages qui sont stéréotypés à un maximum. Par exemple, on retrouve le savant qui a conçu les robots et qui va tenter de ramener le numéro 5, donc notre robot surdoué et très intelligent. Et en fait, c'est le genre de savant qui ne sort jamais de son laboratoire et qui a même beaucoup de mal à conduire une voiture. C'est pour dire à quel point il est totalement à l'ouest. Ensuite, on a son collègue. Il fait un peu... C'est vraiment le mauvais élève. C'est celui... En fait, c'est marrant parce que les deux personnages-là, à eux deux, forment une seule personne. L'un ayant les côtés intellectuels et l'autre ayant les côtés rapport à la réalité. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'un sans l'autre, ils sont assez borderline. Et c'est que quand ils sont ensemble qu'ils restent dans les clous. Par exemple, on peut les entendre... on peut l'entendre dire... il y a une scène, en fait, où... le numéro 5 est rattrapé par l'armée et du coup le collègue du créateur, il doit protéger la jeune femme qui avait recueilli le robot, et en fin de compte il la plaque au sol, et après il dit comme quoi il a adoré la tenir au sol avec des intentions. Il n'y avait même pas de sous-entendu là-dedans, en fait. Puis finalement, voilà. Du coup, j'ai adoré ce film. Et je vous conseille vraiment de le regarder.
C'est donc la fin de la rubrique Coco au ciné. Et je vous dis, malheureusement, je vous annonce que c'est déjà la fin de cette première émission. Désolé. Mais en tout cas, nous espérons qu'elle vous aura plu. Et que vous continuerez de nous écouter.
jour après jour. Allez, et si ça percute, alors vous percutez ?